Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Avec les débats d'Europe Soir jusqu'à 20h, mais d'abord, c'est le journal présenté par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
19h sur Europe 1, merci d'être avec nous.
Beaucoup d'émotions tout au long de la journée pour rendre hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie décapité il y a un an pour avoir montré en cours les caricatures de Mahomet.
La reconnaissance par la France d'une vérité incontestable, la violente répression par les forces de l'ordre lors d'une manifestation d'Algériens pro-indépendance il y a 60 ans est un crime.
Éric Zemmour sur les terres du Rassemblement National, le polémiste est à Béziers aujourd'hui, invité par Robert Ménard qui l'engage à se rapprocher de Marine Le Pen.
Comédien, metteur en scène, scénariste, plusieurs centaines de personnes sont rassemblées ce matin devant la Comédie Française à Paris pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du théâtre. La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, la France est coupée en deux dans le sens vertical. L'ouest est dans les nuages, plus dense dans le Finistère d'ailleurs. Le ciel qui reste ensoleillé à l'est et des températures plus douces encore qu'aujourd'hui.
Merci, météo complète en fin de journal.
Rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République.
Les mots du Premier ministre. Un an, jour pour jour, après l'horreur, Samuel Paty, professeur d'histoire géo à Conflans-Sainte-Honorine, était décapité par un islamiste pour avoir montré durant son cours les caricatures du prophète Mahomet.
Plusieurs cérémonies ont eu lieu aujourd'hui pour lui rendre hommage. Une plaque en son nom a été inaugurée ce matin au ministère de l'Éducation nationale en présence de Jean Castex et de Jean-Michel Blanquer. Un rassemblement a eu lieu dans sa ville, dans le Val-d'Oise, et cet après-midi, c'était à Conflans-Sainte-Honorine, un hommage en deux temps qui a commencé dans le collège du Bois d'Aulne où Samuel Paty enseignait, Yasmine Akatou.
Oui, dans l'établissement, à l'abri des micros et des caméras, 300 professeurs, élèves et parents d'élèves sont venus rendre hommage à Samuel Paty. Et dans un silence quasi religieux, leur voix résonne à l'extérieur sur le parvis du collège dans des haut-parleurs.
Discret et serein, nous nous souviendrons toujours de Samuel avec sa légendaire écharpe violette. Le président a remis la Légion d'honneur. Pourquoi faudrait-il attendre que l'on meure ?
Dans la foule, les habitants se consolent, serrent leurs enfants dans leurs bras. Tous se dirigent ensuite à quelques centaines de mètres du collège, place de la Liberté, entourée de Valérie Pécresse, Yannick Jadot ou encore Delphine Bateau. Laurent Brosse, le maire de Conflans, s'est exprimé.
Un an après, nous avons séché nos larmes, nous avons pansé nos blessures, nous avons repris le cours de nos vies, sans pour autant oublier. Ni pardonner.
Un discours devant plus de 500 personnes, des conflanais mais pas que. Léa, 16 ans, vit dans une ville voisine.
Et l'an dernier, j'avais pas forcément compris ce qui s'était passé. Et là, j'avais le besoin d'être là pour comprendre.
Point d'orgue de l'hommage, Léa a pu découvrir un immense livre ouvert, plusieurs vignettes de bande dessinée pour défendre la liberté d'expression.
Yasmine Akatou, Colombe pour Europe 1.
Autre moment fort aujourd'hui, une cérémonie près de Paris pour commémorer le 60e anniversaire de la répression dans le sang par la police française d'une manifestation d'Algériens pour l'Algérie indépendante.
Tir à balle réelle, manifestants jetés morts ou vivants dans la Seine, bilan officiel de 3 morts. Les historiens de leur côté estiment qu'au moins 120 personnes ont été tués ce jour-là. Cet après-midi, Emmanuel Macron a participé à une cérémonie sur les lieux du drame à Colombes. Bonsoir Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Bonsoir.
Le président n'a pas prononcé de discours, mais à l'issue de la commémoration, l'Élysée a publié un communiqué. Pour la première fois, l'État français lâche les mots attendus depuis 60 ans par la communauté algérienne. Il s'agit de crimes.
Oui, Emmanuel Macron a reconnu les faits. Voilà ce qui est écrit noir sur blanc dans ce communiqué où l'on peut lire également, je cite, que les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. Pour rappel, Maurice Papon était à l'époque préfet de police de Paris. Il avait donné l'ordre de réprimer cette manifestation interdite 60 ans après. C'est donc une reconnaissance officielle. L'Élysée admet que cette tragédie fut longtemps tue, déniée ou occultée. En 2012, François Hollande, alors président, avait fait un premier pas qualifiant cet événement de sanglante répression. Avec ce terme de crime et le fait de se rendre à une commémoration, une première pour un président, Emmanuel Macron va beaucoup plus loin. Alors aux yeux de l'extrême gauche, ce n'est toujours pas assez. Les insoumis et les communistes souhaitaient qu'Emmanuel Macron reconnaisse aujourd'hui ce massacre comme un crime d'État. De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est tout l'inverse pour Marine Le Pen qui critique, je cite, « des repentances à répétition insoutenables ». La patronne du RN qui estime que le chef de l'État continue à rabaisser notre pays alors que l'Algérie nous insulte tous les jours. Ce soir, l'Élysée indique que l'intention d'Emmanuel Macron est de regarder l'histoire en face.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Éric Zemmour, pas encore candidat officiel, poursuit la tournée promotionnelle de son livre. Après Nîmes hier, le polémiste était aujourd'hui à Montpellier et à Béziers.
Sur les terres de Robert Ménard, qui l'a invité et qui a promis de soutenir Marine Le Pen pour la présidentielle. Le maire de Béziers qui invite donc Éric Zemmour à se rapprocher de la présidente du Rassemblement National, Benjamin Péter.
Oui, Robert Ménard qui a accueilli celui qu'il présente comme son ami dans cette salle de spectacle de 1200 personnes qui est comble. Pour le maire de Béziers, on est à un point crucial désormais. Pour lui, on ne gagne pas à 15 ou 20% et il appelle à l'union des droites.
Je vous en conjure, on n'a pas d'ennemis à droite. Tu ne gagneras pas sans les autres. On ne gagnera pas sans Marine Le Pen. On a besoin de tout le monde.
Et il fait une proposition, il invite Marine Le Pen et Éric Zemmour à se rencontrer en février et que le moins bien placé sortirait grandi de se retirer au profit de l'autre. Éric Zemmour prend le micro mais ne s'engage pas.
Merci de tes sages conseils, je ne les oublierai pas. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore en février, nous sommes en octobre et j'ai un peu de mal à me retirer alors que je ne me suis pas encore présenté.
Alors après quelques minutes de discours, il a fustigé l'école, l'université et la culture. Éric Zemmour échange depuis plus d'une demi-heure maintenant avec ses sympathisants qui, pour la plupart, avec qui j'ai pu discuter, souhaitent qu'ils s'entendent avec le Rassemblement National.
Benjamin Péter à Béziers pour Europe 1.
Un numéro unique d'urgence sera bientôt testé pour améliorer la prise en charge des victimes.
Le 15, le 17 et le 18, regroupés sur le 112. La plateforme sera testée à compter de l'année prochaine et durant 2 ans dans une vaste zone de la France. L'annonce a été faite ce matin à Marseille par Emmanuel Macron à l'occasion du congrès des pompiers de France.
10 jours après le lancement du hashtag MeTooTéâtre, une manifestation aujourd'hui place du Palais Royal à Paris devant la Comédie Française.
Point de départ de ce mouvement puisque c'est dans cette institution que Marie Coquille-Chambel, critique de théâtre, affirme avoir été violée par un des sociétaires. Et ce rassemblement, Thibaut Hue, était un cri de colère des victimes dans le milieu du théâtre.
Ouais, 200 personnes et une majorité de femmes se sont rassemblées pour lire des discours, entonner des chants. Comédiennes, sénatrices, metteuses en scène, elles ont levé des pancartes où l'on peut lire « Notre corps nous appartient, non à la culture du viol ». Parmi elles, Marie Coquille-Chambel, la première à avoir libéré la parole en témoignant avec le hashtag MeTooTéâtre. Pour la jeune femme, se retrouver entre victimes est important pour se reconstruire.
On a l'impression qu'on peut vraiment faire évoluer les choses, en fait. C'est très beau, c'est très fort. Je pense qu'il y a moins de colère que de joie de se retrouver et d'être soutenu et entendu pour la première fois. Et c'est très beau, et je crois que c'est ça l'humeur générale. C'est la joie d'être ensemble, la joie d'être entendu, et on espère que ça va durer.
Dans la foule, il y avait un seul homme politique, Yannick Jadot, candidat écologiste déjà en course pour l'élection présidentielle. Il a rappelé que les violences sexistes et sexuelles sont au cœur de son programme pour 2022. Et de son côté, le collectif MeToo Théâtre demande une enquête au ministère de la Culture pour chiffrer les agressions en France.
Thibaut Hue. Les Gilets jaunes étaient de retour sur les ronds-points. Aujourd'hui, ils étaient finalement peu nombreux à se rassembler contre l'augmentation des prix du carburant. Cette reprise de leur mobilisation intervenait en parallèle d'une nouvelle journée de contestation des anti-vaccins. Vaccination et antipasse sanitaire.
19h09, c'était la date que les voyageurs désireux de se rendre aux États-Unis attendaient. Les États-Unis rouvriront leurs frontières aux touristes étrangers à partir du 8 novembre.
Oui, des frontières qui étaient fermées depuis mars 2020. Les voyageurs vaccinés et qui auront réalisé un test de dépistage 3 jours avant le départ seront donc autorisés à entrer dans le pays. Une très bonne nouvelle pour les compagnies aériennes qui espèrent une reprise du trafic, Aurélien Fleureau.
Les professionnels du secteur aérien vont y voir plus clair. C'est donc à partir du 8 novembre qu'ils vont pouvoir recommencer leur plan de vol en direction des États-Unis. Un soulagement, alors qu'en France, le trafic des aéroports parisiens en septembre n'était que de 50% par rapport à celui de 2019. Pour une compagnie comme Air France, cette reprise est primordiale, expliquait sa directrice générale Anne Rigaille il y a quelques jours.
La reprise vers les États-Unis, nous l'avions prévue cet été, nous l'attendions avec impatience, nous avons eu cette très très bonne nouvelle. Nous avions déjà offert à nos clients un programme avec une reprise de l'intégralité de nos destinations, donc 100 vols par semaine. Il faut voir que c'est 40% pour nous ce marché, il représente 40% de notre activité.
Pour voyager, il faudra être vacciné et se faire tester dans les 3 jours avant le départ. Air France avait remarqué que ces réservations s'étaient surtout accélérées à partir de la mi-novembre, mais ceux qui avaient tenté leur chance pour un éventuel vol au tout début du mois pourront le décaler. Ce choix du 8 novembre va donc empêcher les Européens de profiter des vacances de la Toussaint et va priver également les coureurs étrangers du marathon de New York qui aura lieu le 7 novembre.
Aurélien Fleureau du service économie.
Ça n'est pas une blague, il y a une chasse aux fauves en ce moment dans le Pas-de-Calais. L'animal qui pourrait être un grand félin est recherché depuis mercredi soir.
Il a été aperçu à plusieurs reprises depuis les communes de Frévent et Auxil-Château près d'Arras. Un important dispositif appuyé d'hélicoptères a été déployé pour l'intercepter. La préfecture a également donné le droit de l'abattre.
Attention derrière vous. Un peu de théâtre à présent avec un célèbre couple sur scène.
Couple à la ville et sur les planches, Pierre Arditi et Evelyne Bouix donnent la réplique dont fallait pas le dire au Théâtre de la Renaissance, une pièce que Naïma Bencheman est allée voir pour Europe 1.
Un filtre, quand il est correctement installé dans un cerveau normal détenu par une personne sensée, ça sert à ne pas dire n'importe quoi, n'importe quoi.
Fallait pas le dire est une affaire de famille. C'est la première fois que Salomé Lelouch met en scène un spectacle où elle dirige à la fois sa mère et son beau-père, Pierre Arditi.
Contrairement à ce que tu penses, on peut pas tout dire tout le temps à n'importe qui. Voilà.
Une virée à deux sur les chemins tortueux du couple. Réchauffement climatique, rapport homme-femme, GPA, elle et lui ne sont à peu près d'accord sur rien.
Tu as proposé à mon fils de porter son enfant, mais tu es incommensurable. Faire une virée
à deux. Les dialogues sont incisifs, drôles et en partie inspirés par leurs discussions familiales.
Elle se sert un certain nombre de nos humeurs. Bon, ça forme effectivement un couple qui peut être agité d'ailleurs, mais qui n'est jamais malveillant. Mais c'est vrai qu'on s'est approprié tout ça. Ça semble sortir de nous comme si on avait l'habitude de vivre de cette manière-là.
Fallait pas le dire, mais comme me le disait Pierre Arditi, l'amour, c'est quelque chose qui se partage, mais où l'on ne partage pas tout.
Naïma Bencheman, fallait pas le dire, donc au Théâtre de la Renaissance à Paris jusqu'au 2 janvier prochain.
Ça donne envie. On passe au sport. Et on commence par le foot, Sophie.
La 10e journée de Ligue 1, Lille rechute et s'incline à Clermont. 1-0, Anthony Perel.
Oui, c'est Clermont Foot qui s'impose par la plus petite des marques. 1-0, les Auvergnats renouent donc avec le succès. Un succès qui les fuyait depuis deux mois, depuis le 15 août dernier pour être précis. C'est le latéral gauche Vital Nsimba qui est l'unique buteur du match. Il est à la conclusion d'une jolie contre-attaque clermontoise et sa frappe des 16,50 m n'a laissé aucune chance à Ivo Gerbic, le portier nordiste. C'était à la demi-heure de jeu. Après cela, la réaction lilloise a été plutôt timide, privée notamment de son buteur turc Burak Yilmaz. Les Dogs sont tombés sur un os cet après-midi puisque Clermont Foot n'a finalement jamais été réellement inquiété dans cette partie. Et au final, Lille s'incline et rate l'occasion de monter sur le podium. Clermont, de son côté, se relance et revient à un petit point de son adversaire du jour.
Anthony Perel. Et puis autre rencontre ce soir, Lyon-Monaco à 21h et à suivre sur Europe 1.
Et justement, c'est l'heure de connaître le sommaire d'Europe 1 Soir. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Pierre. Effectivement, au sommaire sur Europe 1 ce soir, déjà l'affaire Neymar. Neymar qui envisage non pas d'arrêter sa carrière, mais d'arrêter la sélection brésilienne après la Coupe du Monde au Qatar. C'est ce qu'il a déclaré en début de semaine. On fera un point sur ce dossier avec Isabella Pagliari, qui est la grande spécialiste des footballeurs brésiliens et qui a posé les questions dans le cadre de ce documentaire et qui va nous expliquer que la réponse de Neymar date d'il y a 6 mois et qu'elle est donc un petit peu hors contexte. On évoquera aussi le foot à l'étranger avec l'Allemagne, dans le cadre notamment du match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. L'adversaire Leipzig a fait match nul, 1-0 aujourd'hui face à Fribourg. Et puis en Angleterre, on évoquera notamment la victoire de Liverpool 5-0 face à Watford ou encore celle de Leicester face à Manchester United 4-2. Manchester City, autre adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, s'est imposé contre Burnley 2-0.
À Lionel Rousseau et Europe 1 Sport, c'est à partir de 20h.
Un petit mot de rugby avec le top 4.
Oui, Clermont s'est imposé, vient de s'imposer face à Montpellier 22-20. Un peu plus tôt, Bordeaux-Bègles, leader, a battu Pau 37-33. Puis Castres a écrasé Biarritz 38-20.
Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud.